Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Livre des Actes, c'est tout de suite après l'évangile de Jean, c'est l'histoire finalement de l'église primitive, de l'église première, et nous avons donc ce texte, et il y a des choses qui sont, ça fait partie d'un discours d'ailleurs de Pierre, qui va parler eh bien devant la foule, dans les environs de la Pentecôte, enfin à peu près dans ce temps-là, et il dira des grandes vérités, enfin la vérité tout simplement, on peut dire ça comme ça. Alors, livre des Actes, chapitre 4 et le verset 12. Et il dit ces paroles, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Alors nous allons méditer sur ce passage, hein, où il est question donc dans cette interpellation de ces gens qui sont réunis à cette occasion, eh bien, de bien marquer les choses dans leur essentiel. Il n'y a de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus, et par lequel eh bien, Dieu nous a envoyé le salut. C'est un message, on pourrait peut-être dire, un message ciblé sur le nom et sur l'œuvre de Jésus, qui est naturellement eh bien, le cœur même de la Bible, et particulièrement la révélation de l'Évangile. Et le nom Jésus veut dire sauveur. Voilà. Hein, Yeshua, sauveur, et nous l'avons bien noté, hein, aucun autre nom. C'est-à-dire qu'à l'exclusion de tout autre, si nous désirons et si nous souhaitons, si nous voulons être sauvés, il n'y a que Jésus. Alors peut-être ça peut nous surprendre dans la société dans laquelle nous sommes, ou bien dans la société même chrétienne, où il y a tant de noms qui peuvent être donnés, par lesquels nous pouvons passer vers Dieu, enfin nous pouvons nous adresser à Dieu, des médiateurs, des médiatrices, des auxiliaires, enfin voilà. Mais vous savez qu'il y a un proverbe dans nos traditions populaires, il nous est dit que vaut mieux passer par Dieu qu'à travers ses saints. Voilà, on peut naturellement comprendre ce que ça veut dire, que bon, le chemin est tracé. On va voir par le détail, justement, l'importance du nom de Jésus. Hein, je vous ai dit sauveur, puisqu'il est question, justement, l'apôtre Pierre dira, ben, par lequel nous devions être sauvés. Nous devons, nous pouvons, si nous voulons naturellement. Hein. Alors, aucun nom. Il est question, naturellement, dans cela, de salut, et d'être sauvé tout simplement, et c'est pas une petite affaire, puisque l'Écriture, la parole de Dieu, la Bible, a concentré, a axé, on pourrait dire, tout son message, le message divin délivré aux hommes, et bien sûr le salut. Alors il y a bien sûr d'autres doctrines dans la Bible, dans l'Évangile en particulier, avec leur manifestation et le développement, la guérison par exemple, des souffrants. Il peut y avoir également, eh bien là, la réception de toutes sortes de choses manifestées ou encouragées par des promesses, donc pas seulement la guérison, mais les secours dans nos détresses morales, et puis toutes sortes de choses, une assurance également, eh bien, dans nos âmes, hein, le pardon, la paix dans notre conscience, dans nos pensées, enfin bon, toutes sortes de choses comme ça, mais l'essentiel, c'est le salut. Voilà, et je pense que quand Jésus est venu parmi les hommes, le nom qu'il portait, Sauveur, hein, c'est bien ce que ça veut dire. Hein. Alors pour les Juifs, naturellement, il est le Messie. Mais pour les hommes du monde entier, eh bien, il est avant tout le Sauveur. Hein. Et c'est pas une affaire de quelques jours, dans ce sens que tout ça, ça remonte, eh bien, au premier jour de l'humanité, nous pourrions dire, hein, au départ de la création et de la chute. Eh bien, il y avait nécessairement besoin d'un rédempteur, quelqu'un qui rachète. Quelqu'un qui sauve les hommes, quelqu'un qui vient vers les hommes, non pas pour les juger mais ou les condamner, mais leur dire, eh bien voilà, malgré le péché, malgré la faute, malgré l'état dans lequel se trouve l'humanité, eh bien, il y a une possibilité, il y a un secours, il y a quelqu'un peut finalement accomplir ce que vous ne pouvez pas faire, parce qu'on ne se sauve pas soi-même. Hein, et les hommes ont inventé toutes sortes de processus ou de procédés, je ne sais pas de quels moyens, hein, ils n'ont jamais tari d'imagination dans ce domaine, pour essayer de se sauver eux-mêmes, de gagner leur salut par exemple, ou de racheter leur âme à travers des mortifications, à travers l'ascétisme, à travers toutes sortes de choses hein, qui transparaissent à travers les religions que les hommes ont enseignées eh bien là hein, par tout le monde. Alors, c'est quelque chose de formel. Et ce texte est quand même tellement important parce que il est révélé au début de l'Église primitive, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui donne finalement eh bien, cette possibilité, qui le rappelle en tous les cas. Alors, il n'y a qu'un seul, la Bible nous le dit, un seul et unique Dieu et sauveur du genre humain. Et on peut parler à ce moment-là de monothéisme. Le monothéisme, mono, hein, théisme, croire dans la divinité, croire en Dieu. Et vous savez, quand on tourne les pages de notre Bible et que l'on va peut-être là dans des histoires très reculées, dans l'histoire des Juifs par exemple, moi je prends par exemple à témoin eh bien, ce qui nous est dit, ce qui nous est rapporté dans le livre d'Ésaïe au chapitre 45 et au verset 21 pour nous dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas 36. Vous savez, dans toute l'histoire des hommes, selon les régions, selon les peuples, les sociétés, les civilisations, même encore dans nos pays chrétiens, eh bien, chacun se réclame finalement, eh bien, d'avoir là un appui tutélaire auprès d'un patron, d'un saint, etc., etc. Et la Bible nous dit d'une manière, elle le disait à Israël pour bien le prévenir qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, donc le monothéisme, un seul Dieu pour les hommes. Et il est dit ceci. C'est en quelque sorte, eh bien, Ésaïe qui est le porte-parole de Dieu à ce moment. Et il dira, déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres, qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps qu'il les a annoncées. N'est-ce pas moi, et ça c'était ce que j'ai voulu, eh bien là, signifier, n'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. C'était enseigné depuis l'histoire première du peuple d'Israël, les Hébreux, à la sortie, on pourrait dire, d'Égypte en particulier, mais même avant d'ailleurs, du temps d'Abraham, cette rencontre de cet homme avec eh bien Dieu, et qui lui a parlé, et qui a mis sa foi dans ce Dieu qu'il ne voyait pas, ce Dieu invisible, et là il est rappelé finalement eh bien qu'il n'y a point d'autre Dieu que moi, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Donc, si nous voulons bien avoir une bonne compréhension de la Bible et de l'Évangile, qui résume finalement, l'Évangile résume tout le reste de la Bible, eh bien, il faut bien comprendre que Dieu ne partage pas. Il est le seul qui s'est révélé, il est à la fois créateur, il est rédempteur. C'est-à-dire que ce que nous sommes, nous sortons de ses mains, excusez-moi, géniales, et puis devant la corruption humaine, devant ce que nous pouvons constater tous les jours et à travers tous les temps d'ailleurs, eh bien, l'homme avait besoin d'être racheté, un rédempteur. Mais il y a un prix à payer. Vous savez, rédempteur, ça vient du mot rachat, et ça veut dire que quelqu'un va payer à la place d'un autre, ou quelqu'un va donner une rançon pour que l'autre soit libéré, d'une manière ou d'une autre. Et bien sûr, tout cela culmine à travers le message de l'Évangile, eh bien, à travers la venue de Jésus, Jésus Sauveur. Dans Jean chapitre 14, on connaît cette parole que Jésus nous laisse et qu'il donnait à ses disciples. Il dira « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. » Et il ajoute cette parole « Nul ne vient à moi, ne vient au Père, pardon, excusez-moi, nul ne vient au Père que par moi. » C'est très clair. Et pour bien signifier que c'est un appel, si vous considérez que je suis le chemin, dit Jésus, alors suivez-moi. Si vous croyez que je suis la vérité, croyez-moi. Et si vous pensez que je suis la vie, acceptez-moi, tout simplement. Parce que il n'y a pas 36 passages, il n'y a pas 36 médiateurs, il n'y a pas 36 façons, finalement, eh bien, de nous approcher de Dieu. Ce que les Juifs n'ont toujours pas compris aujourd'hui, hein. Ils attendent toujours leur Messie. Mais une chose qui est certaine, c'est que le Messie est venu déjà depuis 2000 ans. Mais un jour, Israël se réveillera. prendra conscience, comme le livre du prophète Zacharie dira, qu'ils auront cette révélation et ils auront la conscience que celui qu'ils ont cloué, celui qu'ils ont livré à la mort, eh bien, c'est précisément leur Messie. Donc, l'histoire de l'Évangile et l'histoire du Nouveau Testament n'est que la complémentarité ou tout simplement la conclusion de l'Ancien Testament. Voilà, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 3, et je me permets d'enrichir un peu la méditation, ce sera peut-être une petite étude biblique, mais la méditation de ce soir en citant quelques textes, parce que le fondement du salut, eh bien, se trouve à travers ce passage. Quand il est dit ceci, et c'est pas Jésus qui le dit, mais c'est ceux qui ont été les disciples de Jésus, les apôtres, et ils diront cette parole que nous connaissons et que nous méditons quelquefois, parce que c'est très explicite, hein. Au verset 3, au chapitre 3 et au verset 11, il est bien dit ceci, « Car personne, dans la foi, dans le christianisme, dans la vie spirituelle, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Donc, le christianisme repose exclusivement sur Jésus. Maintenant qu'il y a eu des hommes de nom et de renom, des hommes qui ont une vie, qui sortait de l'ordinaire par leur consécration, moi je pense à Paul ou à Pierre ou à d'autres, il y en a d'autres qui se sont égrenés à travers les siècles. Non, il n'y en a qu'un, le fondement, comme la pierre angulaire d'une maison sur laquelle l'architecte ou le bâtisseur va monter les murs, et pour faire une maison, pour faire un édifice. Eh bien, cette pierre angulaire, c'est Jésus. C'est à partir de lui, seulement sur lui. Et ce que les hommes ont souvent fait, c'est quelquefois à déplacer cette pierre pour construire d'une autre manière. Alors évidemment, on s'y retrouve plus. Souvent, c'est un petit peu labyrinthique, si je peux me permettre de dire cela, c'est que les gens disent, mais je comprends pas, il y a tant de religions, il y a tant de choses autour de nous, et c'est souvent contradictoire quand les religions ne se font pas la guerre les unes des autres. Hein. C'est ce que nous voyons dans le monde, et ça a toujours existé, cela. Non, quand on revient à l'Évangile, on peut comprendre que le christianisme, que la foi chrétienne, eh bien, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Et celui qui a été posé, étayé par toute l'Écriture antérieure, par tout le message du Nouveau Testament, eh bien, c'est Jésus, tout simplement. Ça, c'est très important, et c'est pour cela que on revient un petit peu à notre pensée première, il n'y a pas d'autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes, eh bien, sur la terre, que le nom de Jésus-Christ. C'est important de le souligner. Il y a d'autres textes comme cela que nous pourrions en effet citer. Par exemple, Jésus est proposé à notre foi comme l'avocat. Vous savez que dans 1 Jean chapitre 5 verset 11, eh bien, il est parlé justement du pardon. Il est parlé de ceux qui, eh bien, de tous ceux, finalement, eh bien, qui ont une conscience quelquefois un peu chargée et lourde. Et pour nous montrer que Jésus est aussi, en quelque sorte, l'avocat. Il est le consolateur par le truchement du Saint-Esprit. Et c'est celui qui plaide. Et nous le voyons très souvent dans les textes évangéliques, même à travers les paraboles. Toutes sortes de choses où Jésus, eh bien, là, finalement, plaide pour les coupables. C'est lui qui va finalement, eh bien, retenir le juste jugement, j'aime pas trop ce terme, mais quelque part, et souvent il y a beaucoup de gens, et il y a une grande multitude de gens, qui pensent que Dieu est un Dieu juge, un Dieu qui condamne, et à la moindre incartate, eh bien voilà, il y a tout de suite, finalement, eh bien une sanction. Alors c'est le syndrome de la punition, ça, et les religions ont développé ce syndrome de la punition, alors que quand on lit l'Évangile, on s'aperçoit que Jésus est avant tout celui qui accueille. Et on le voit très très souvent, finalement, et bien là, entouré de gens qui sont chargés d'une vie qu'ils ont vécue, ou d'une vie, une mauvaise vie en quelque sorte, et ces gens vont avoir la propension de croire davantage Jésus que le monde religieux de son temps. Hein. Et il va être très sévère avec les pharisiens, par exemple, ou avec toute la nomenclature religieuse de son temps. Par contre, avec les publicains, avec un tel, et ces gens vont croire, finalement, ils croiront beaucoup plus facilement, eh bien, à la faveur de Dieu, ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Et nous nous apercevons que ce témoignage de Jean, quand il nous est dit qu'il est la vérité, on l'a cité tout à l'heure, mais qu'il est aussi l'avocat, parce que Jésus a toujours plaidé pour le pardon, Vous savez que parmi les 7 dernières paroles de Jésus à la croix, il y a celle-ci. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Il n'y a qu'un avocat qui peut finalement et bien remplir ce rôle. Et Jésus est présenté dans la Bible, dans le Nouveau Testament, comme le divin avocat, celui qui plaide pour les hommes. Maintenant, ce plaidoyer, il ne peut que correspondre à un état intérieur de l'homme ou de la femme qui se repent de ses péchés, qui prend conscience, qui est tourmenté peut-être par la culpabilité de ses fautes et puis de sa vie passée. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il faut le considérer eh bien comme un avocat. Ce que je voudrais ajouter, avant d'aller un peu plus loin et pour développer qu'il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus-Christ, eh bien c'est ce que j'aimerais justement développer à travers quelques versets bibliques que vous n'allez pas chercher dans votre Bible, mais je vais vous les citer tout simplement, je les ai devant les yeux, et qui touchent à beaucoup de choses de notre vie. Où Jésus est présenté en quelque sorte comme la plénitude de ce que l'homme a besoin, de ce que le chrétien a besoin, de ce quoi il peut aspirer profondément en s'appuyant sur Jésus, et qui était, et ce que nous avons dit il y a un instant, qu'il n'y a pas d'autre nom qui n'ait été donné. Alors on peut en inventer des noms, je l'ai dit, on le verra à la fin tout à l'heure. On peut inventer toutes sortes de choses, toutes sortes de passe-droits, pour essayer de se rendre Dieu favorable. Non, la Bible est claire, et si vous permettez, à partir de l'évangile de Jean jusqu'à l'Apocalypse, vous avez toute votre nuit là, ça va? Vous avez du temps? Non, je ne vais pas vous faire ça, hein, parce que j'aurais quand même pas... Non, mais il y a quand même des textes qui sont très très forts et qui nous montrent que nous avons besoin de Jésus, que le nom de Jésus est le nom suprême, que le nom de Jésus est celui que Dieu a donné et que nous pouvons nous approcher de lui en toute confiance, en toute simplicité et nous attendre à sa grâce. Vous savez que dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, je cite comme ça pour mémoire, hein, Jésus dira à ses disciples, tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l'accordera. Ça vaut la peine de retenir ce verset. Tout ce que vous demanderez en mon nom. En quelque sorte, c'est la certification de l'exaucement dans la prière. Oui, il y a des gens qui se servent de toutes sortes de médiateurs. L'Église, je ne critique pas, je vais laisser la conscience de personne, mais à démultiplier toutes sortes d'intermédiaires et de toutes sortes de médiateurs pour avoir la faveur, l'exaucement de telle ou telle situation dans la vie, la souffrance, enfin toutes sortes de choses. Écoutez bien, tout ce que vous demanderez, nous dit Jésus, c'est lui qui le dit, en mon nom, il n'y a pas d'autre nom qui n'ait été donné, je le rappelle, eh bien mon Père vous l'accordera. C'est Dieu qui donne, mais celui qui va faire le médiateur, c'est Jésus, en notre faveur. Alors bien sûr, la prière, c'est pas prier, comme il y a des millions et des milliards de gens qui prient. Les bouddhistes prient, les musulmans prient, les chrétiens prient. Mais il faut y ajouter la foi. Pas la foi, une foi religieuse, pas une foi de tradition, mais une foi dans la personne de Christ, comme étant le sauveur, celui qui, voilà, était donné. Et c'est lui le seul intermédiaire entre nous, notre misère, nos souffrances, nos cris peut-être. Et puis, alors, je pense que c'est une formidable incitation pour chacun d'entre nous eh bien, à retenir que c'est à travers Jésus et nul autre que Jésus. Il est dit un peu plus loin, toujours par rapport à la prière, « Vous demanderez en mon nom, nous venons de le citer, et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Alors, on peut lui apporter des requêtes, on peut lui apporter nos détresses, on peut lui apporter nos prières, on peut lui apporter nos actions de grâce, enfin toutes sortes de choses. Mais là, il est question, et nous y revenons comme au cœur de notre message, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et ça, c'est quelque chose de rassurant, et je l'ai dit parce que je suis convaincu moi-même qu'il ne s'agit pas de faire valoir des mérites, des bonnes actions, d'être, voilà, ceci ou cela, et puis nos qualités d'homme. Non. Et cette parole, elle est très forte, me semble-t-il, parce que on le voit, par exemple, dans l'histoire du brigand, qui était un homme de mauvaise vie, vous savez, à la croix, hein, celui que, voilà, qui va se tourner vers Jésus et qui va lui dire, mais, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, parce que c'est une question de minutes, là. Ils vont mourir, hein, les uns et les autres, enfin les trois, toujours est-il. Mais pour nous montrer que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu une vie chrétienne, qui n'ont jamais eu, se sont préoccupés de Dieu. C'était certainement le cas de ce brigand. Mais au dernier moment, face à la mort, eh bien, il a eu cette réaction de se tourner vers Jésus, d'invoquer son nom pour être sauvé. Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Et parfois, ça peut être une consolation pour ceux qui sont désespérés, qui ont prié longtemps pour des proches, des bien-aimés, et qui, au dernier moment, et bien là, visités par le Saint-Esprit peut-être, vont crier à Dieu, sentant le départ, et de dire, eh bien, Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi mes péchés. Moi, ça m'est arrivé en tant que pasteur d'assister à ce genre de choses, plus d'une fois d'ailleurs, où des gens m'avaient appelé, des chrétiens peut-être, et puis donc un membre de la famille allait disparaître, et tout simplement pour accompagner ces gens, leur dire, mais écoutez, croyez en Jésus, demandez-lui pardon de vos péchés, et vous serez sauvés. Et là, à ce moment-là, on a vu qu'il s'était passé quelque chose dans la vie de ces gens. Ouais, on a vu des choses assez, comment dire, extraordinaires, parce qu'il y a la promesse. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça ne veut pas dire pour autant que l'on peut mener une vie de patachon et tout ça en disant, au dernier moment, je me mettrai en règle. Il y en a beaucoup qui attendent cela, puis quelquefois, ben, on ne sait pas comment ça va se passer, hein, naturellement. Non, mais il y a quelquefois cette visitation, comme on l'a vu pour le brigand. Donc, invoquer, c'est un gage de salut. Invoquer le nom de Jésus. On n'est sauvé que par Jésus. Et puis, un peu plus loin, si nous revenons dans le livre des Actes que nous avons dont nous avons parlé il y a quelques instants, toujours au chapitre 3, il est dit à un moment donné, alors qu'il vient de se produire un miracle d'un homme qui est boiteux et qui se met à marcher, parce que c'est Pierre et Jean qui vont prier pour lui, et Pierre va devoir se justifier de ce miracle. Les gens le connaissent parce que c'est un pauvre boiteux qui se trouve à la porte, et il est là, les gens le connaissent depuis des années, il tend la main pour mendier. Et là, les gens sont complètement dubitatifs, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Ils l'ont vu pendant des années boiteux, et là, voilà cet homme. Il se met à marcher, à sauter et à courir pour rentrer dans le temple pour louer Dieu. Et Pierre va leur dire, mais c'est le nom de Jésus qui a raffermi celui que vous voyez et que vous connaissez. S'il marche aujourd'hui, et ce qui nous amène à comprendre que l'invocation du nom de Jésus est facteur et celui qui nous donne la possibilité de guérir de nos maux et d'être rétabli. C'est ce qui s'est passé, hein, vous retrouverez les références dans le livre des Actes. Et il est ajouté, et Pierre ajoutera, mais c'est par le nom de Jésus-Christ que cet homme marche. Nous avons l'habitude dans nos réunions, et c'est pas une habitude et c'est pas une tradition, mais je dis que nous le faisons. Lorsque nous avons des réunions comme ce soir, comme celle-ci par exemple, parce que c'est un ordre de Jésus, il nous est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je peux vous dire que dans nos milieux, nous avons vu combien d'hommes, de femmes qui ont fait l'expérience d'un rétablissement ou d'une guérison. Mais nous n'avons pas prié au nom du centre évangélique et par le pouvoir de tel ou tel pasteur qui aurait reçu quelque chose. Non, c'est le nom de Jésus. Dans l'association de la foi qui est de la personne qui demande et de celui qui prie pour cette personne. Le nom de Jésus. C'est par le nom de Jésus que cet homme, maintenant que vous voyez, eh bien, marche. Et puis, un peu plus loin, je crois que c'est l'apôtre Paul qui dira ça, ou qui entendra ça de Dieu avant de commencer sa mission d'apôtre. Dieu dira, mais j'ai choisi Paul pour porter mon nom parmi les nations. Et ça, c'est intéressant parce que ça ouvre la porte à l'évangélisation, mais la vraie évangélisation. C'est pas de convertir les gens à une religion. Qu'elle soit protestante, catholique ou orthodoxe ou n'importe quoi. Non. Mais ça ouvre la porte, cette parole qui était adressée à Paul, elle s'adresse à de nombreux hommes et femmes encore aujourd'hui. Ouais. Porter le nom de Jésus. C'est une responsabilité, figurez-vous, parce que on peut toujours parler, on peut toujours avoir le vocable, hein, chrétien, le nom de Jésus et tout ça. Mais c'est une responsabilité de la mission qui est donnée à chacun à travers le témoignage ou peut-être pour d'autres une vocation à part entière, c'est-à-dire devenir pasteur ou devenir évangéliste d'une manière ou d'une autre. Je l'ai choisi pour porter mon nom parmi les nations, parmi les hommes naturellement. Et nous voyons que il y a là une puissance qui se dégage à ce moment-là, parce que c'est Dieu qui mandate. C'est pas une aspiration, ce n'est pas une vocation qui viendrait finalement de nous-mêmes, mais c'est un appel. Et il nous est dit que, dans un autre passage, eh bien là, ceux qui ont été appelés, et on est tous appelés, d'une manière ou d'une autre, hein, quelle que soit la déclinaison, finalement, eh bien de ce que nous allons faire, mais il nous est dit qu'ils s'exprimaient avec assurance au nom de Jésus. La force qu'il donne au témoignage, à notre témoignage, ou même à une prédication simple comme ce soir, ce n'est pas parce que nous avons appris beaucoup de choses, que nous sortons de la faculté de théologie. ou de je ne sais quel institut biblique. Non. Ce qui donne la hardiesse et l'audace, eh bien, le courage. Comme Pierre, qui avait trahi Jésus, qui s'était enfui parce qu'il avait eu peur, qui avait renié Jésus, et qui à un moment donné, après la Pentecôte, a été rempli du Saint-Esprit pour parler devant 3000 personnes qui se trouvaient là et leur a annoncé hardiment ce message de l'Évangile. Oui, c'est naturellement, eh bien, s'exprimer avec assurance, parce que moi je crois qu'il y a un accompagnement qui nous est donné à ce moment-là en particulier, et qui fait la force de la prédication, et qui touche les cœurs, parce que c'est pas de toucher l'intellect, le cérébral, la compréhension, l'intelligence des gens, parce que ça, bien sûr, hein, on peut le faire, mais de toucher les cœurs pour les amener à comprendre et à croire qu'il n'y a pas d'autre nom qui n'ait été donné dans le ciel sur la terre que le nom de Jésus. On revient toujours à la même chose. Et à ce moment-là, le nom de Jésus était glorifié. C'est pas l'homme qui est glorifié. C'est pas l'homme qui va en retirer, eh bien là, quelques royalties, comme on dit, hein, qui va en retirer de bénéfices. Non. Vous savez, Jésus nous a toujours enseigné l'humilité, d'une manière ou d'une autre. Et il nous dira même que lorsque nous avons fait tout ce que nous devions faire, nous sommes encore des serviteurs inutiles. Beaucoup, peut-être, l'ont oublié, ça. Hein, parce que ce n'est pas le titre ni la fonction qui doit nous élever devant les hommes. Pas du tout. Jésus était rempli d'humilité et de simplicité. Et je crois que s'il y a miracle, s'il y a des choses extraordinaires, s'il y a puissance de la parole de Dieu, eh bien c'est pas l'homme, même si c'est un orateur, ce n'est pas l'homme qui doit en retirer le bénéfice, le profit, c'est Jésus. Et il y a ce texte dans la Bible, il nous est dit tout simplement, eh bien là, le nom de Jésus était glorifié. L'apôtre Paul, à un moment donné, qui a eu beaucoup de tribulations, hein, il n'a pas toujours eu une vie très facile, jamais facile, hein, Paul, quand on lit son histoire, on s'aperçoit que il dira, il confessera cette parole, il dit, je suis prêt à mourir pour le nom de Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Les premiers chrétiens qui ont été persécutés sous l'Empire, les trois premiers siècles, qui ont été persécutés sous l'Empire romain, étaient prêts à mourir pour Jésus. Je voudrais vous dire qu'il y a eu des millions de gens, oui, oh oui, je ne pense pas, dans le monde, et dans nos pays aussi, hein, qui ont été vraiment, qui ont donné leur vie. Et ça, c'est le témoignage de l'amour pour Jésus. Pour son nom, pour défendre le nom de Jésus. Et si l'on revient un peu sur l'histoire des hommes, on s'apercevra très très vite que ce nom de Jésus a véritablement été honoré par des hommes qui n'ont pas renoncé peut-être à aller au-devant de la mort. Moi je pense à toutes les persécutions qui ont duré quand même 3 siècles, enfin 2 siècles et demi par exemple dans notre pays, les guerres de religion, hein, ce que l'on a appelé les huguenots, ce que l'on a appelé les camisards, ce que l'on a appelé les protestants, parce que si on a la Bible aujourd'hui, c'est quand même grâce à eux, hein, de pouvoir lire librement la Bible. Hein, il a fallu que ça soit entériné à la Révolution française pour qu'il y ait un article qui stipule que tout homme a la liberté de la conscience, de sa conscience, parce que ça n'existait pas avant. Hein. Alors il y a des gens qui ont donné vraiment beaucoup pour ça. Il y a quelque chose que je voudrais souligner par rapport au nom de Jésus, le nom unique de Jésus, où nous avons la plénitude finalement de ce que nous avons besoin. Il est dit à un moment donné, je crois que c'est Paul aussi qui l'écrit, il dira, vous avez été justifiés par le nom de Jésus. Est-ce que c'est notre justice ou celle de Jésus qui compte? Nous ne sommes pas justes. Mais une chose qui est certaine, à travers son sacrifice, à travers la croix, à travers le calvaire, Golgotha, si vous aimez mieux, à travers le don de sa vie, nous sommes maintenant justifiés aux yeux de Dieu parce que Jésus a accompli pour nous. « Je donne ma vie pour mes brebis », dira-t-il, dans une autre parabole, dans l'évangile de Luc, de Jean, pardon, au chapitre 10. Voilà, justifié, qu'est-ce que ça veut dire? Accusé, certes, mais quand je ressors du tribunal, ce n'est pas un tribunal de jugement, c'est un tribunal de grâce. Je suis acquitté, c'est formidable. Alors peut-être pour tous ceux qui se sentent finalement, eh bien là, mal à l'aise dans leur conscience, parce que nous avons tous certainement, eh bien, d'une façon ou d'une autre, transgressé. Mais une chose qui est certaine, c'est que lorsque nous croyons en Jésus, notre simple foi, notre démarche de croire qu'il est notre sauveur, alors à ce moment-là, Dieu nous justifie. Il n'y a plus de condamnation, nous dit Paul dans Romains, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et puis, ce nom de Jésus nous permet d'avoir un accès non pas seulement à la prière, par la prière à Dieu, mais à travers, eh bien, ce texte qui nous est rendu, rendez grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ. Cette expression c'est pas seulement de demander à Dieu, mais de pouvoir lui dire aussi merci, c'est-à-dire de le remercier. On appelle ça tout simplement, eh bien là, tout simplement la louange ou l'action de grâce, et voire même davantage l'adoration de Dieu. Et puis il arrivera un temps, c'est un autre passage, où il nous est dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira devant lui. Ah oui. Tous ceux qui par orgueil, par incrédulité, par fanfaronnade ou bravade, je ne sais pas, on dit mais Dieu n'existe pas, c'est tout ça, ce sont des histoires. Il nous est dit que de toute façon, toute créature sur la terre devra rendre finalement eh bien, hommage à Dieu. C'est aussi le livre de l'Apocalypse qui nous confirme. Et puis ici, nous avons besoin de le savoir également. C'est un texte où Jésus nous le dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », toujours dans l'évangile de Jean. Et pourtant, l'apôtre Paul dira « Mais faites tout au nom du Seigneur Jésus ». Oui, de tout faire. Et ça implique notre vie dans le quotidien. Ça implique notre vie dans le journalier, lorsque j'entreprends quelque chose. C'est pas être dévot, hein, ce que je suis en train d'expliquer. C'est pas de la superstition non plus, hein, parce qu'on peut toujours avoir le nom de Jésus continuellement dans la bouche, puis finalement ne pas y croire. Hein. Bon, d'une façon positive ou négative, hein, de toute manière. Mais il est bien dit, mais faites tout au nom du Seigneur Jésus. Et c'est bien de pouvoir l'associer finalement à notre vie, dans les bons comme dans les mauvais moments. De pouvoir, eh bien là, comprendre et réaliser que c'est lui qui nous donne la force. Finalement, c'est encore lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous donne la santé. C'est lui qui nous donne des possibilités dans notre existence. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Associez-le. Reconnaissez-le en toute chose. Et vous verrez que c'est une véritable bénédiction pour la vie des croyants, des chrétiens en tous les cas. Quiconque prononce le nom du Seigneur, nous dit encore Paul, eh bien, qu'il s'éloigne de l'iniquité, c'est-à-dire du péché et du mal. Parce que nous ne pouvons pas associer le nom de Jésus avec une vie qui soit complètement le contraire. C'est pas possible. Une vie où il y a de mauvais sentiments dans notre cœur. Une vie où il y a encore le mensonge. Une vie où il y a toutes sortes de choses qui sont nébuleuses et qui sont pleines de tortuosité. C'est pas possible. Et il est bien dit, hein, que quiconque prononce le nom du Seigneur, alors à ce moment-là, vaut mieux se taire. Vaut mieux rien dire. Eh bien, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et dans le livre des Hébreux, il nous est dit que Jésus a hérité un nom plus excellent que, finalement, les anges. Et ça, je crois que, pour nous dire encore que Jésus est au-dessus de tout, il est partout, il est surtout. Tout pouvoir, dit Jésus, dans l'évangile de Matthieu, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et puis parfois, parce que nous sommes chrétiens, nous pouvons être outragés pour le nom de Jésus. On parlait de persécution tout à l'heure, mais quelquefois il y a des gens qui ne l'entendent pas de la même manière que nous pensons. Hein. Et lorsque nous parlons de Dieu, ça les indispose tellement, ça les embarrasse que quelquefois ils peuvent devenir violents. Violents en parole ou violents en acte. Et c'est pour ça qu'il est dit à un moment donné, si vous êtes outragés par le nom de Jésus, parce que vous êtes fidèles à Jésus, parce que vous voulez vivre finalement votre foi en Jésus-Christ, vous pouvez être outragé, vous pouvez être persécuté, vous pouvez avoir des tribulations de toutes sortes. Eh bien, Jésus l'en parlera dans le sermon sur la montagne, il vient, et soyez heureux, soyez dans l'allégresse. Pas facile, hein. D'accord? On me cogne, on me tape, et je dois être heureux. Et ça, c'est un miracle de Dieu. C'est pas moi qui peux le... Parce que quand on me bouscule, j'ai envie de répondre de la même manière, vous comprenez? En pensant que ma justice, c'est que si je fais justice de cette manière, non. Jésus nous a promis qu'il sera avec nous dans toutes sortes de difficultés et qu'il viendrait nous délivrer. Quand, comment et où, ça on ne sait pas. Mais toujours est-il que c'est une école de persévérance et de patience. C'est vrai. Et puis, je voudrais terminer simplement par rapport à ce petit état de ce qui nous est dit autour de la question. Il nous est dit à un moment donné que cette parole, que ces commandements, les commandements de Dieu, eh bien, c'est que nous croyons, le commandement de Dieu, c'est que nous croyons que Jésus est notre Sauveur. Est-ce que nous pouvons dire ce soir que nous croyons en lui? Eh bien, si vous croyez en lui, affirmativement, vous êtes sauvés, naturellement. C'est son commandement. Et dans l'église primitive, l'église de l'Apocalypse, il est dit à un moment donné, et je crois que c'est à Smyrne, il est dit, dans toutes tes souffrances que tu as connues, tu n'as pas renié mon nom. Ouais. Le reniement, c'est dire, je ne connais pas, je ne veux pas le savoir, tu n'as pas renié mon nom. Et son nom est la parole de Dieu, nous lit le livre de l'Apocalypse aussi. Et cette parole de Dieu, eh bien, c'est ce que, quelque part, c'est une preuve de fidélité pour nous de dire, eh bien, voilà ce que je crois, je vais aller jusqu'au bout. Il ne s'agit pas, encore une fois de plus, et je voudrais le souligner, il ne s'agit pas d'appartenir à une religion, à une confession religieuse. Non, il s'agit d'appartenir à Jésus. Et je suis en train de cibler tout ce message comme un message christocentrique. Christocentrique, c'est-à-dire que Christ est au centre, sans rien d'autre. Ça, c'est important. Et puis, lorsque nous arriverons à la dimension du ciel, lorsque nous serons dépouillés de notre monde et de notre corps, il nous est dit que nous porterons son nom sur notre front. Alors, savoir si dans le ciel nous aurons encore un front, posez la question. Non, nous revêtirons à ce moment-là un corps glorifié, comme celui de Jésus à la résurrection. Mais il nous est dit, finalement, que nous porterons son nom. C'est pas le nom d'une confession, catholique, protestante, tout ça. Ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Alors, je voudrais simplement terminer un seul. Nous est présenté dans la Bible, vous l'avez bien compris ce soir, je ne vais pas recommencer. Hein. Mais un seul nous a été donné pour notre salut, c'est le nom de Jésus. Un seul Dieu, un seul Sauveur. Et quand on se tourne, et je finis, vers le panthéon du monde païen, alors là, ça change les choses. On ne parle plus de monothéisme, on parle de polythéisme. Est-ce que je dois dire que dans l'histoire des civilisations du monde, de l'Antiquité à nos jours, rien n'a changé? Non, rien n'a changé. Est-ce que je dois dire, et j'ai peut-être l'audace de le dire, mais même dans les confessions catholiques, dans les confessions chrétiennes, pardon, excusez-moi, on n'a plus affaire à ce Dieu unique, mais à toutes sortes de divinités, de sous-divinités, des déesses et toutes sortes de choses. Voilà. Le polythéisme religieux, qui quelquefois touche l'occulte aussi, je dois le dire. Ça n'a plus rien à voir avec, eh bien, ce que nous avons établi à travers ces quelques... Et le panorama est très vaste, hein. L'adoration des idoles, qu'elles soient de pierre, d'or ou de tout ce que vous voudrez, à travers toutes sortes de manifestations, selon l'ouvrage artistique des hommes, de ce que les hommes sont capables de faire. Le culte à d'autres divinités, c'était formellement condamné à travers l'Ancien Testament pour les Juifs. Mais on voit qu'ils ont passé outre, hein. Quand on voit l'idolâtrie, même dans l'histoire du peuple d'Israël, c'est terrible, qui a été sévèrement sanctionné par des déportations, soit à Babylone, par exemple. Ça, c'est l'histoire, on le sait tout ça, hein. La vénération où les hommes se prêtent, sous le nom de Dieu, à la vénération et à l'adoration, et leur cortège ténébreux. Paul le dira, ce qu'ils adorent, ce n'est pas Dieu, mais ce sont des idoles. Et derrière les idoles, il y a le monde occulte, il y a le monde invisible et ténébreux. C'est ça ce qui est dangereux. C'est le monde des croyances en tout genre et en tout lieu. Et on le voit, il suffit de faire un tour d'horizon et de voir, ne serait-ce qu'à la télévision, certains reportages, qui sont neutres ces reportages. Et quand on voit ce que les hommes sont capables d'adorer. J'ai toujours été un petit peu interpellé par l'hindouisme. Quand on voit qu'il y a une extrême pauvreté, et tout ça est sacrifié sur l'autel d'adoration d'animaux, entre autres la vache. Mais vous savez, ils n'ont rien inventé. Hein, parce que Moïse, quand il est descendu du mont Sinaï, qu'est-ce que les Hébreux ont fait? Ils ont fait un veau d'or pour l'adorer. Rien n'est de nous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il ne faut pas se faire d'illusion. Et les hommes vont se prosterner devant des choses secondaires. Adorer Dieu, c'est vrai qu'il est invisible, Dieu. Dieu est esprit, mais il est présent. Les vrais adorateurs, nous dit Jésus à la Samaritaine, évangile de Jean, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui m'adoreront en esprit, en vérité, et non pas avec des représentations, non pas avec toutes sortes de choses. On va en dire quelques mots. Parce que c'est un ordre biblique, Dieu, l'homme. Mais quand l'homme se met à adorer le ciel et la terre, quand il se met à adorer des fleuves, parce que bon, la mythologie égyptienne, c'est ça, et puis bien d'autres mythologies antiques, hein, quand on se met à adorer des animaux, voire un veau d'or, ben je me dis, on est descendu, hein, très très loin. Moi, je suis convaincu que Dieu est créateur. Je crois au créationnisme et non pas à l'évolution, comme on le présente souvent. Moi, je me sens pas descendre d'un arbre. Hein. et puis d'autres choses. Bon, ça vous fait peut-être sourire, mais bon, faudrait approfondir la question, parce que je le dis d'une manière abrupte, mais quand même, comment se fait-il que les hommes ont adoré la créature au lieu du créateur? S'il n'y a pas une déviation, s'il n'y a pas une ignorance de ce que nous dit la parole, en fait d'ignorance, personne ne l'ignore, et personne ne veut y croire. Si je prends par exemple le livre de l'Exode, quand il est dit à un moment donné au chapitre 20, et vous allez peut-être reconnaître la chose, il est dit ceci, « Quand Israël est sorti d'Égypte, Moïse est monté sur le mont Sinaï, il a proclamé la loi, ce qu'on appelle le Décalogue 10, Décalogue. Il dira à Israël, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Un seul Dieu. Monothéisme, déjà la base du judaïsme, de la religion des Hébreux des Juifs, était déjà posée. Qui ne connaît pas les 10 commandements. Dans le monde où il y a véritablement, eh bien là, on connaît ces choses. Alors, naturellement, l'Évangile n'enseigne pas ça. On est bien d'accord. Et non seulement l'Évangile ne l'enseigne pas, mais il le condamne. Il y a quelques dérives, quelques confusions morales et spirituelles, et ce sont des erreurs. Du pseudo-christianisme, vous savez ce que veut dire pseudo, hein, c'est pas du vrai, mais c'est du faux, tout simplement, résultat de l'imagination, des inventions de l'esprit humain en concurrence avec Jésus et son salut. C'était plus facile de remplacer Jésus, pour ceux qui ne veulent pas l'accepter, qui ne veulent pas se repentir, parce que c'est ça, la question de Jésus, c'est changer de vie, tout simplement. Laissez Dieu nous changer, ou changer notre vie. Alors ça suppose beaucoup de choses, hein, nos traditions, nos rites, nos habitudes, et puis tout ce qu'il peut y avoir... finalement, eh bien là, de préjudiciable à notre existence. Mais on a préféré finalement, eh bien là, faire tout autre chose, de dire tout autre chose, d'enseigner tout autre chose que de croire en Jésus. Et nous voyons que c'est en totale contradiction avec ce que nous dit l'Écriture. Nul ne vient au Père que par moi, nous dit Jésus. Simplement, quand on aborde la question du culte des saints et des anges. Et oui, ça existe, et ça existe au cœur de notre christianisme. Ça a été introduit, je voudrais quand même vous donner quelques éléments, parce que c'est important, c'est historique. Hein. Ça a été introduit, finalement, vers l'an 600. C'était l'Église primitive. Et qui remplace les faux dieux païens de l'Antiquité. Et nous voyons qu'on a mis les noms différents. Quand on voit, par exemple, dans notre région de Bretagne et tout ça, eh bien, ça a souvent été construit sur des temples où il y avait du druidisme et toutes sortes de choses. Et dans bien des temples païens. Alors, on a mis des édifices qui avaient, naturellement, eh bien, pour appellation le christianisme. Mais rien n'a changé derrière, parce que les populations n'ont rien changé. Et là, on faisait toutes sortes de choses. On avait ce qu'on appelle, on faisait de la nécromancie, on invoquait les morts en faveur des vivants. Les morts, ils sont morts. Hein. C'est ce qui nous est dit d'ailleurs dans le livre du prophète Ésaïe. Le culte des anges, on l'a dit tout à l'heure, ça touche le spiritisme, c'est-à-dire les démons, et qui entraîne les gens à la superstition. Je touche du bois. Et tout est en fer autour de moi. Merci Seigneur. Non, mais c'est vrai, ou alors de toutes sortes de choses. On nous a appris, moi j'ai été élevé dans la religion que l'on connaît naturellement, et déjà tout petit, parce que j'ai été dans un milieu assez strict au niveau religieux, mais on m'a appris finalement qu'il y avait toutes sortes de choses, de superstitions et tout ça. Mais la superstition, c'est pas la foi, c'est le contraire de la foi. La superstition génère la crainte, la peur, alors que la foi rassure. C'est tout à fait différent, naturellement. Je voudrais pas trop souligner le trait, mais le culte à Marie. Marie ne remplace pas Jésus. Et on a développé tout un culte à Marie. Permettez-moi de le dire, c'est ce qu'on appelle de la mariolatrie. Marie, c'est une femme exceptionnelle dans l'histoire de la Bible. Nous pouvons reconnaître qu'elle a donné naissance, la seule femme qui a donné naissance à Jésus. Enfin, la seule femme qui est, que Dieu a choisi pour donner naissance au Sauveur. Mais après, vous n'en parlez plus dans le message de, après le livre des actes des apôtres, après le premier chapitre du livre des actes qui commence l'histoire chrétienne, on n'en parle plus. On nous a dit qu'elle était ressuscitée, mais elle est morte comme tout le monde, elle n'est jamais ressuscitée. Elle ressuscitera comme nous à la fin des siècles. Et des gens l'invoquent et lui demandent toutes sortes de choses. Ça s'appelle de la nécromancie. Invoquer les morts. Jésus est mort, il est ressuscité et il revient. Il est vivant, Jésus. On invoque notre Dieu qui est vivant, pas un Dieu mort. Quand on demande de prier pour les saints, mais ce sont des hommes qui sont morts. C'est terrible, hein? Terrible parce qu'on a la Bible pour nous le dire et les gens ne veulent pas y croire à tout cela. Hein? Ouais. Alors, le culte des reliques et des images, est-ce que ce n'est pas remplacé? Vous savez, dans tout le Moyen-Âge, c'était véritablement la folie, hein? D'avoir un morceau de vraie croix ou de telle relique d'un saint, un os, un crâne et des choses comme ça, mais c'est morbide tout cela. On n'a pas besoin de tout cela. Jésus nous dit que c'est en esprit et selon sa parole. De suivre les enseignements, c'est beaucoup plus simple. Hein. Beaucoup plus simple avec Jésus que de devoir aller dans un lieu, un pèlerinage, ceci, cela. Et souvent, c'est monnayable. Hein. Et ça coûte cher. Alors que Jésus nous dit, vous avez reçu gratuitement, ben, vivez avec ce que vous a donné, profitez-en. Ça met de côté tout cela. Tu ne te feras pas d'image taillée, il nous est dit. Alors, il est dit dans le livre des actes, tout simplement en conclusion, ce que nous avons lu il y a un instant, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Je termine par une parole de Pierre. Quand Jésus lui a dit, mais qui dit-on que je suis ? Connaissez dans l'évangile, hein, c'est rapporté au moins dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Et il va répondre, Pierre, cette parole. À qui irions-nous ? Toi, Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Ça, c'est essentiel. Ce fameux Pierre, que nous connaissons, illustre apôtre, va donner la réponse à tous ceux qui veulent croire, à tous ceux qui veulent s'engager pour Jésus. Mais à qui irions-nous d'autre qu'à toi? Parce que c'est toi qui as la vie éternelle, c'est toi les paroles qui nous conduisent à la vie éternelle. Alors il confessera à Pierre, il dira, mais nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. C'est ainsi que l'on est sauvé, selon ce que nous dit l'Écriture. Pas une religion, pas seulement eh bien, quelques théologies religieuses, mais selon ce que Jésus nous enseigne. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On va prier quelques instants si vous voulez bien. Et que Dieu nous bénisse à travers sa parole ce soir. C'est peut-être un peu abrupt, mais c'est quand même, me semble-t-il, la vérité, non pas de ce que je crois, moi, mais de l'Évangile. On s'est donné la peine de citer quelques versets qui doivent étayer notre foi. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. Parce que nous croyons que cette parole, eh bien, elle est la vérité pour ceux qui ouvrent leur cœur. Elle est véritablement le chemin du salut. Elle est pour nous la vie. Elle est pour nous, Seigneur, eh bien, tout ce dont nous avons besoin pour nous approcher de Dieu. Nous te remercions pour ces paroles que nous avons, eh bien là, écoutées, que nous avons apportées, parce que nous savons, Seigneur, que c'est pas les paroles d'un homme qui peuvent changer quelque chose. Et ces paroles, lorsqu'elles sont véritablement portées par le Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos âmes, dans nos consciences et dans nos esprits, c'est elles qui nous convainquent de péché, de justice et de jugement. Et tu nous dis, Seigneur, que tu es venu vers les hommes à travers la personne de Jésus, le nom de Jésus-Christ, pour que les hommes ne soient pas perdus, condamnés, mais qu'ils soient justifiés par la foi. Oui, Seigneur, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, afin que personne ne se glorifie. Alors, Seigneur, nous te remercions pour ta parole, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen.
pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.